Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi sous la neige. J'espère que vous n'êtes pas trop ensevelis. Marianne Paquette, contente de vous parler en ce mercredi. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Et je vous parle d'une initiative de la Coalition québécoise sur la problématique du poids qui a décidé à la fin du mois de février de s'unir, d'appuyer la nouvelle coalition pan-canadienne Stop Marketing to Kids pour demander au gouvernement fédéral d'interdire le marketing d'aliments et de boissons auprès des enfants. Et vous vous dites peut-être, me semble que c'est déjà pas légal. Et vous avez raison, parce que ici au Québec, on est la seule province au pays à bénéficier d'une loi qui interdit la publicité aux enfants de moins de 13 ans. C'est depuis 1980, donc on a déjà un bon bout de chemin de fait. On peut être bien fier de ça, mais, et il faut le savoir, il y a certaines exceptions qui demeurent problématiques, comme les emballages, les présentoirs dans les épiceries et aussi à ces sites aménagés lors d'événements familiaux. Des exceptions qui seraient favorables à l'industrie. Donc, beaucoup de tactiques qui, sans qu'on s'en rende trop compte, sont socialement acceptées. Il faut rester vigilant. Et en deuxième partie d'émission, Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, pourra nous aider davantage. Aussi, vous dire que d'ici 2030, une personne sur quatre sera considérée comme proche aidante. Et juste en ce moment, au Québec, on estime que plus d'un million, le nombre de personnes qui aident déjà au quotidien un proche, une personne âgée, un proche aîné. Et on le sait, dans le contexte social actuel ici au Québec, ça risque de s'accroître. Hein? On est dans une population qui est vieillissante, donc de plus en plus de personnes seront appelées à être des proches aidants. C'est un rôle qui souvent vient avec des incertitudes, avec de la fatigue, avec des doutes. Comment on peut reconnaître les besoins des proches aidants, mais aussi ceux des personnes que l'on accompagne? J'en parle un instant avec Anne-Laure Marcadet. Elle est conseillère au développement des ressources à l'Appui Montréal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
On se parle aujourd'hui dans le cadre d'une conférence gratuite qui sera offerte le 17 mars prochain du côté du Centre Avantage de l'IUGM, en collaboration avec le CESCO, et je trouvais le titre de cette conférence « Aider un proche aîné, penser à soi tout en pensant à l'autre » assez approprié. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui part en premier lorsqu'on est un proche aidant, penser à soi.
Oui, tout à fait, parce que on a tendance à culpabiliser, à penser au fait que notre proche, notre parent qui a par exemple la maladie d'Alzheimer ou une perte d'autonomie est beaucoup plus malchanceux que nous. Donc, en tant que proche aidant, on a du mal à s'autoriser également d'avoir des propres besoins pour soi-même.
Et pourtant, le proche aidant a des besoins.
Oui, tout à fait. C'est des besoins qui sont très variés d'une personne à l'autre, mais ça va de l'information sur la maladie d'un proche, les mandats en cas d'inaptitude, les crédits d'impôt, le fonctionnement du système de santé, donc extrêmement variable, effectivement.
Je me demandais, Anne-Laure, s'il n'y a pas aussi un besoin à quelque part de reconnaissance, parce que, bon, de moins en moins, parce qu'on est de plus en plus sensible au rôle très important qu'ont les proches aidants dans notre société, mais ce besoin de reconnaissance-là, à savoir tout leur rapport, parfois, il est un peu mis de côté.
Oui, tout à fait. Cette reconnaissance est importante parce qu'elle peut donner accès à certains droits, tout simplement. Et le fait que, par exemple, votre employeur ne reconnaisse pas ce statut de proche aidant et les difficultés qui peuvent aussi être associées fait que ça mène également à l'épuisement. Le simple fait, par exemple, de proposer des mesures de conciliation travail-famille dans son organisation, dans son entreprise, en facilitant les horaires flexibles ou des congés, par exemple, c'est une première reconnaissance qui est vraiment très importante pour les proches aidants.
Comment on peut, et j'imagine que dans le cadre de vos fonctions à l'Appui Montréal, vous devez le faire, comment on amène le proche aidant à pouvoir nommer, identifier ses besoins?
La première des choses qu'on invite l'entourage à faire et les professionnels, c'est surtout de ne pas les opposer à ceux de la personne aidée, mais bien de regarder la situation dans son ensemble. C'est vraiment un conseil qu'on donne à tous les intervenants parce qu'à partir du moment où on les oppose, le proche aidant, on en revient à cette idée de culpabilité, ne va pas reconnaître qu'il en a pour lui, mais c'est vraiment, et c'est l'objet de la conférence, de savoir comment mettre en lumière les besoins de la personne en perte d'autonomie qui va avoir besoin d'une popote roulante, par exemple, versus ceux du proche aidant. Le proche aidant ne va pas avoir besoin de la popote roulante, mais il va avoir besoin de savoir à qui s'adresser dans le système pour être capable de mettre en place ce système-là de popote roulante, par exemple.
Oui, de ne pas travailler en opposition, mais d'un commun accord. Hein.
Oui, tout à fait, de considérer le proche aidant comme un véritable partenaire qui peut bien évidemment venir soutenir les intervenants pour encore plus soutenir la personne âgée de manière adéquate, mais également pour considérer que cette personne-là, en tant que partenaire, elle peut aider aussi. Donc, c'est vraiment important de considérer, comme on dit, la dyade, le proche aidant, l'aîné, comme un ensemble.
Ouais. Donc, pour identifier les besoins, ça prend, bon, vous le disiez, la dyade, c'est très intéressant, mais le dialogue pour identifier les besoins de chaque partie.
Voilà, tout à fait. Et les conseils qu'on donne aux différents intervenants, c'est de ne pas seulement poser les questions aux proches aidants sur leurs parents, leurs conjoints, etc., mais eux, de quoi est-ce qu'ils auraient besoin, sans nécessairement leur demander « est-ce que vous avez besoin de répit, est-ce que vous avez besoin de groupe d'information ?» mais avant même de leur proposer des services, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, qu'est-ce qui vous aiderait le plus dans votre situation actuelle et qu'on pourrait vous offrir?
Oui. Je trouve que c'est un discours intéressant, Anne-Laure, parce que souvent, on ne parle pas de plaisir lorsque l'on parle d'être proche aidant. Et vous venez de le nommer, il peut y avoir des plaisirs auxquels on a encore envie de goûter, même si on a ce nouveau rôle qui peut être assez lourd au quotidien. Et il y a des risques pour la santé des proches aidants?
Oui, tout à fait. Comme vous le notez, il y avait certaines études qui notaient que la situation des danses amène aussi beaucoup de plaisir, c'est sûr, mais on a beaucoup de risques sur la santé. Plusieurs études, que ce soit notamment au Canada, lors de l'enquête sociale générale de 2012, par exemple, les personnes qui s'occupaient de leurs parents ou de leurs grands-parents pendant au moins 2 heures par semaine présentaient beaucoup de fatigue, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de sommeil, mais également de certaines blessures en exécutant les tâches de la vie quotidienne, comme par exemple en aidant à déplacer son proche qui ne peut plus se bouger. Donc, ce sont différentes blessures qui peuvent effectivement apparaître.
Le besoin de répit, est-ce que ça revient souvent?
Oui, je dirais, vous avez parlé de reconnaissance, le besoin de répit, c'est, je dirais, la demande prioritaire des proches aidants. Donc, ça prend plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, du gardiennage à domicile avec une personne qui va venir chez vous, vous remplacer dans votre vie quotidienne comme des centres d'activité pour les aînés, donc à l'extérieur du domicile. Et c'est aussi, d'une manière plus large, un moment où on peut souffler en tant que proche aidant, reprendre sa respiration, puis faire des activités qu'on a choisies puis qui nous font plaisir.
Oui. Est-ce que les activités avec d'autres proches aidants peuvent être favorables afin d'échanger sur notre quotidien, notre réalité?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs organisations à Montréal qui organisent des groupes, soit des groupes d'entraide pour parler simplement, ou des groupes où on va venir plus être apprendre des informations sur une maladie, sur comment planifier son rôle, les mandats et d'inquiétude. Donc, ce sont des groupes, oui, qui sont aussi très appréciés des proches aidants pour avoir un moment où on se sent aussi reconnu. Cette question de reconnaissance revient beaucoup.
Oui. Je vous écoute, Anne-Laure Marcadet, et je me dis, ce qui serait idéal, évidemment, c'est pas toujours possible, ce qui serait idéal, c'est de pouvoir harmoniser autour d'une personne aînée, d'une personne malade, plusieurs proches aidants. Et en ce sens, je me dis, est-ce que la famille plus élargie pourrait davantage se mobiliser, s'impliquer?
Oui, on invite bien évidemment chaque personne qui le souhaite, bien évidemment, mais que ce soit la famille, que ce soit les voisins, que ce soit les amis, ne pas hésiter à aller demander au proche aidant ce qu'il souhaite, parce que beaucoup de personnes ont en tête le fait qu'on peut juste aider un proche aidant en venant garder, par exemple, surveiller son père ou sa mère, mais ce sont plein d'autres choses toutes simples qui peuvent aider dans la vie des proches aidants. D'aller faire son épicerie à sa place, de juste venir boire un café avec lui, voir comment il va, l'accompagner pour aller faire du jardinage. Donc, c'est vraiment parfois des toutes petites choses qui vont permettre de faire une très grande différence dans la vie des proches aidants.
Vous parliez de plaisir également, Anne-Laure. Est-ce qu'il y a des études qui appuient le plaisir que récolte un proche aidant s'occuper d'un prochain-né?
Oui, tout à fait. Comme je mentionnais, ça représente à peu près 45% des proches aidants qui ont vraiment du plaisir à dans cette situation d'aide. Notamment, par exemple, ça peut être des enfants qui n'avaient pas nécessairement de relation ou plus de relation avec leurs parents, puis qui se retrouvent à devoir réinvestir dans cette relation et qui, au contraire, sont extrêmement satisfaits d'avoir pu renouer avec leurs parents, d'avoir pu même créer de nouvelles relations. Donc, l'approche aidant, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi beaucoup de positif.
Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a... L'Appui Montréal existe. Est-ce qu'il y a... c'est à Montréal. Ailleurs, en région, des ressources pour les proches aidants. Canal M est diffusé partout. Donc, je m'adresse aux gens qui ne sont pas nécessairement sur l'île de Montréal, mais qui sont ailleurs et qui ont besoin d'aide, de répit, de conseils.
Oui, tout à fait. Les appuis, donc il y a Appui Montréal, bien évidemment, mais il y a un appui dans chaque région du Québec.
Oui.
Et il y a également un service info aidant. Donc, à travers tout le Québec, il y a des conseillers qui peuvent répondre soit au téléphone, soit par courriel pour référer vers des organisations que l'appui finance ou pas. Certaines organisations, comme les CLSC, par exemple, peuvent également offrir des services aux proches aidants. Mais la ligne info aidant a l'avantage de pouvoir référer les proches aidants où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire québécois pour des ressources à tous les niveaux, sur tous les territoires.
Mm-hmm. La conférence a ce but d'arriver à élaborer les besoins du proche aidant et du proche soutenu, à aussi parler des différentes ressources, mais tout ça dans le but d'éviter l'épuisement. J'imagine, Anne-Laure, que c'est ce qui guette aussi principalement les proches aidants.
Oui, c'est un risque qui est quand même avéré. Et dans le cadre de ce colloque avec l'IUGM, l'idée avait été de repérer quelles étaient aussi les causes d'hospitalisation et de recours à l'urgence.
Ah oui.
Et un des moyens pour aussi prévenir le recours à l'urgence, c'est d'éviter d'avoir aussi un proche aidant qui soit lui-même malade. Donc, c'est vraiment d'être capable de soutenir l'ensemble de ce monde-là, les proches aidants, les personnes aînées, puis l'entourage pour éviter des conséquences qui soient négatives pour l'ensemble de la famille, au final.
Mais oui, parce que qu'est-ce qu'il arrive lorsque le proche aidant est lui-même malade, hospitalisé, se retrouve à l'urgence? On est vraiment en état de crise, là, à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Puis pour la personne, si le proche aidant, par exemple, vivait avec la personne aînée en perte d'autonomie et que cette personne ne peut plus vivre toute seule chez elle, il y a un risque d'avoir une hospitalisation et un placement dans le plus long terme pour la personne aînée. Donc, l'idée n'est pas non plus de vouloir, entre guillemets, instrumentaliser les proches aidants, mais d'avoir cette conscience-là que... Oui, il faut bien évidemment qu'ils le fassent pour l'aîné, mais qu'ils le fassent aussi pour eux. Donc, comment est-ce que les intervenants, les professionnels, pourraient aussi considérer les besoins de chacun pour un meilleur soutien des familles?
Excepté le répit, est-ce que les proches aidants peuvent bénéficier d'aide? Je pense notamment à de l'aide financière.
Au niveau de l'aide financière, ce sont principalement des crédits d'impôt. Donc, je dirais que justement, quand c'est période de déclaration, ça va être très important d'en parler à son comptable ou d'appeler ma collègue Christine à la ligne Info Aidant, parce qu'il y a des crédits pour aidant naturel, il y a des crédits pour répit, justement. Donc, ce sont des aides qui peuvent venir, à défaut d'une aide financière sur le long terme, qui peuvent venir quand même soutenir les proches aidants.
Vous parliez d'une ligne Info Aidant, Anne-Laure, du côté de l'appui. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont offertes via votre organisme?
Notre organisation, nous, on va financer d'autres organisations qui sont sur le territoire. Par exemple, pour Montréal, ça peut être la Société Alzheimer de Montréal, la Société de la SLA du Québec. Mm-hmm. Donc, plusieurs organisations sur chacun des territoires de C3S montréalais. Et bien évidemment, chacun des appuis fait la même chose à l'ensemble du Québec.
Mais vous offrez aussi de l'information. Donc, on peut vous appeler et ça demeure tout simple là, d'aller chercher de l'information.
Oui, tout à fait. Ma collègue offre un service en français et en anglais. Elle va donner une première information. Et si le proche aidant souhaite poursuivre, avoir encore plus d'informations, mettons, sur une maladie en particulier, va pouvoir les référer à l'organisation qui correspondra le mieux à ses besoins. Mais ma collègue Christine est une belle porte d'entrée pour justement faire un point sur ses besoins propres et avoir un minimum d'informations dès le début.
Ouais, on la salue, cette Christine, Anne-Laure Marcadet. Avant de parler de la conférence du 17 mars, j'aimerais vous parler de détresse, c'est-à-dire le proche aidant. On parle beaucoup d'informations qui doivent circuler, de répit, d'épuisement. Quels sont les services pour le proche aidant qui est en situation de détresse?
Ça va être du soutien psychosocial. Certaines organisations, comme la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, offrent des services d'un psychologue. Mais on a également plusieurs organisations qui vont offrir du soutien de groupe, mais surtout du soutien individuel pour idéalement prévenir bien évidemment cette détresse. Mais dans le cas où le proche aidant arrive déjà dans une situation de détresse avancée, ça va être de l'accueillir, puis de manière individuelle, confidentielle et à son rythme, les intervenants qualifiés vont pouvoir soutenir le proche aidant pour l'aider à identifier les meilleures solutions et stratégies pour lui à mettre en place pour améliorer sa vie de proche aidant. Donc, c'est du soutien concret.
Oui. Et ça, j'ai l'impression que les proches aidants ont besoin de cette approche bien, bien concrète, là, parce qu'eux vivent une réalité qui est concrète et doivent apporter des soins à quelqu'un qui a besoin d'une aide bien concrète, là.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que les organisations du territoire offrent vraiment une panoplie de services qui est très, 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 très large, que ce soit de l'information, les conférences, les groupes de soutien. Mais ce qui est vraiment important de noter, c'est que c'est une offre qui se fait de manière très individualisée et personnalisée.
Ouais.
Bien évidemment, en français, en anglais, mais à Montréal, on a aussi la chance d'avoir des organisations qui l'offrent en arabe, en arménien, en turc, en cantonais. Donc, vraiment, le mot-clé à Montréal, et je le sais dans les autres régions du Québec également, c'est vraiment l'adaptation, la personnalisation. Qu'est-ce qu'on va faire, non pas pour tous les proches aidants en général, mais pour chacun des proches aidants en fonction de sa situation propre?
Oui, ça revient à cette notion de reconnaissance, une reconnaissance qui nous fait sentir unique, et je pense que c'est important. Anne-Laure Marcadet, en terminant cette conférence du 17 mars et gratuite, offerte du côté du Centre Avantage de l'IUGM, 60 minutes donc de discussion, c'est à 18 heures. On glissera toutes les informations sur notre site. Est-ce qu'il reste encore de la place?
Oui, je sais qu'il n'y a pas d'inscription encore nécessairement, mais c'est un amphithéâtre qui a pu accueillir jusqu'à 130 personnes. Donc, je sais qu'il va y avoir de la place pour tout le monde.
Et les thèmes qui seront abordés sont ces besoins importants à cibler autant du côté du proche aidant que du proche soutenu.
Oui, tout à fait, ainsi qu'un certain nombre de ressources qui existent sur ces territoires pour que les proches aidants puissent les contacter.
Donc, iugm.qc.ca/avantage pour en savoir davantage. Et aussi, ce qui est important et plaisant à savoir, c'est que la conférence, elle sera filmée. Donc, vous serez filmée, Anne-Laure, je vous l'apprends peut-être,
oui.
Et mise en ligne quelques jours après la conférence pour les personnes ailleurs hein, au Québec qui ne pourront pas se déplacer. Anne-Laure Marcadet, je le rappelle, vous êtes conseillère au développement des ressources à l'appui Montréal. Merci beaucoup, bonne conférence.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Eh bien, comme vous vous en doutez peut-être, on a du mal à rejoindre Corinne Voyer. Elle est directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Jean-Sébastien travaille fort derrière la console à essayer de vous trouver un petit moment, vous faire entendre peut-être une rediffusion. On cherche fort, on travaille fort. On vous revient dans quelques instants.
Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruit son langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes eaux restant troubles, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, détruise ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient
Eh bien, comme vous l'avez deviné, on n'a pas réussi à joindre Mme Corinne Voyer, mais demain, on se reprend. On vous parle de ce centre de réadaptation à la fine pointe de la technologie Neuroconcept. Et Jocelyne Gadeboubois, notre infirmière en résidence, nous parle de comment prévenir l'anémie. Portez-vous bien. À demain. Bye-bye.